Chapitre 20. Mars, mère de Tétis.
C'est sans doute Falstaff qui a sonné le glas de mon histoire d'amour avec le barde.
Pardon ? Manmuth ne savait plus où donner de la tête. Il s'affairait à conduire le submersible mourant vers une côte toujours hors de vue, atteignant péniblement une vitesse de 8 nœuds, à maintenir en ligne les fonctions de bord, à scruter le ciel par l'entremise de la bouée périscopique, guettant l'apparition de chars ennemis, et à ruminer sur la probabilité de plus en plus faible de leur survie. Cela faisait plus de 2 heures qu'Orfu n'avait pas pipé mot dans sa soute. Et maintenant, cela.
« Qu'est-ce que tu disais à propos de Falstaff ?» demanda Manmuth.
« Je disais que c'était à cause de Falstaff que j'avais abandonné Shakespeare en faveur de Proust. »«
J'aurais pourtant cru que tu adorerais Falstaff. Il est tellement drôle. »«
Mais j'adorais Falstaff. Je m'identifiais avec Falstaff, bon sang. J'aurais voulu être Falstaff. Pendant un temps, j'ai bien cru que je ressemblais à Falstaff. »
Manmuth s'efforça d'imaginer Orfu en Falstaff. Impossible. Il concentra son attention sur les systèmes de bord et sur le périscope.
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
Tu te rappelles la scène dans Henri IV, première partie, où Falstaff tombe sur le corps d'Henri Percy, alias Hotspur, sur le champ de bataille?
Oui,
fit Manmuth. Le périscope et le radar s'accordaient pour affirmer que le ciel était vide de chars. Il avait été contraint de désactiver le réacteur défaillant durant la nuit, de sorte que les réserves énergétiques étaient tombées à 4% et la vitesse à 6 nœuds à peine. Manmuth savait qu'il n'avait pas le choix et qu'il devrait bientôt remonter à la surface. Chaque fois que la Dame Noire émergeait, il emmagasinait l'air martien dans son environniche, le respirant jusqu'à ce qu'il soit vicié, afin d'envoyer dans la soute tout l'oxygène produit par le submersible. Comme celui-ci n'était pas conçu pour s'ouvrir à l'atmosphère d'Europe, il avait dû circonvenir une douzaine de protocoles de sécurité afin de pouvoir effectuer cette manœuvre.
Falstaff poignarde le cadavre d'Hotspur à la cuisse pour s'assurer qu'il est bien mort,
reprit Orfu.
Ensuite, il le charge sur son dos, s'attribuant le mérite de son trépas.
Exact,
fit Manmuth. D'après le satellite d'aéropositionnement, ils étaient à moins de 30 km de la côte, mais celle-ci demeurait invisible au périscope et il ne tenait pas à orienter le radar dans sa direction. Il se prépara à vider ses ballasts pour refaire surface, mais aussi à replonger à toute pompe en cas de danger.
La meilleure partie du courage, c'est la prudence. Et c'est grâce à cette meilleure partie que j'ai sauvé ma vie,
cita-t-il.
Tous les commentateurs shakespeariens que j'ai lus, Bloom, Goddard, Bradley, Morgan, Hazlitt et même Emerson s'accordent pour dire que Falstaff est l'un des plus grands personnages que Shakespeare ait jamais créé.
Oui.
Orfu garda le silence pendant 1 minute, le temps que les ballasts se vident à grand bruit. Lorsque l'on n'entendit plus que le murmure de l'océan caressant la coque, il reprit.
Mais Falstaff m'apparaît comme un être méprisable.
Méprisable?
Le submersible émergea. L'aube venait de se lever, et le soleil, tellement plus gros que l'étoile avec laquelle Manmuth avait grandi sur Europe, poignait à peine à l'horizon. Il ouvrit les conduits d'aération et respira un air aussi pur que salé.
En quoi consiste son habileté? En astuce. Son astuce en coquinerie. En quoi est-il coquin? En tout,
déclara Orfu.
Mais le prince Hal plaisantait en disant cela.
Manmuth décida de rester en surface. C'était beaucoup plus dangereux que d'avancer immergé, le radar avait repéré un chariot toutes les heures, mais leur vitesse atteignait 8 nœuds et leur réserve énergétique était moins sollicitée.
« Ah bon ?» fit Orfu. « Pourtant, il finit par rejeter le vieux briscard dans Henri IV, deuxième partie. »
« Et Falstaff n'y survit pas. »
Manmuth inspira une goulée d'air tout propre et pensa à Orfu dans sa soute engloutie et ténébreuse, reliée à la vie par les seuls ports radio et conduit à oxygène. La première fois qu'ils avaient fait surface, Manmuth avait compris qu'il ne parviendrait jamais à l'extraire de là tant qu'il n'aurait pas gagné la côte.
« Le roi lui a broyé le cœur, »
dit-il, citant l'hôtesse Quickly.
J'ai décidé qu'il avait mérité ce reniement, déclara Orfu. Lorsqu'on lui a ordonné de recruter des soldats pour la guerre contre Percy, Falstaff a laissé partir les hommes valides en échange de pots de vin, se contentant de recruter des minables. Des hommes qu'il qualifiait de chair à canon.
Sentant la dame noire prendre de la vitesse sur la mer d'huile, Manmut se concentra sur le sonar, le radar et le périscope.
« Tout le monde dit que Falstaff est un personnage bien plus intéressant qu'Al, » commenta-t-il. « Il est comique, réaliste, antimilitariste, spirituel. Le bonheur de la liberté conquise par l'humour, voilà l'essence de Falstaff, » écrit Hazlitt.
« Oui, » fit Orfu. « Mais quelle liberté est-ce là ? La liberté de se gausser de tout ? La liberté d'être un voleur et un couard ?»«
Sir John était un chevalier, » fit remarquer Manmut.
Soudain, il se concentra sur le sens des propos d'Orfu. Orfu, le commentateur cynique et mordant de l'absurde existence des Moravec.
J'ai l'impression d'entendre Koros III, dit-il.
Cette remarque arracha un grondement à Orfu.
Je ne serai jamais un guerrier.
Koros était-il un guerrier? Penses-tu qu'il ait tué des Moravec durant sa mission dans la ceinture?
Cet épisode éveillait la curiosité de Manmut.
Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé dans la ceinture, répondit Orfu. Et je ne pense pas que Koros ait été plus belliqueux que le commun des Moravec. Mais il était formé au commandement et au sens du devoir, des qualités que Falstaff tournait en dérision, y compris quand il constatait leur présence chez son bien-aimé prince Al.
Et tu penses que c'est pour accomplir un devoir que nous sommes ici ?
Manmut aperçut une masse floue au sud.
Quelque chose comme ça.
Et tu penses qu'Hotspur ferait un meilleur modèle que Falstaff ?
Orfu d'Io émit un nouveau grondement.
Il est peut-être déjà trop tard. J'ai abusé du temps, et à présent, le temps abuse de moi.
Ce n'est pas Falstaff, ça.
Non. C'est Richard II,
répliqua la voix dans la soute.
Tu t'estimes trop vieux pour ce qui nous attend ?
S'enquit Manmut, qui se demandait d'ailleurs ce qui les attendait.
Eh bien, je me sens un peu diminué, sans yeux, sans pattes, sans mains, sans dents et sans carapace.
Tu n'as jamais eu de dents, rétorqua Manmut.
La mission de Koros consistait à reconnaître les environs d'Olympus Mons, le gigantesque volcan, et à déposer le plus près possible de son sommet l'engin contenu dans la soute. Mais la Dame Noire était à l'agonie, ainsi peut-être Corfu. Même si ce dernier échappait à la mort, il se retrouverait aveugle, paralysé et totalement dépendant une fois qu'ils auraient touché terre. Comment Manmut parviendrait-il à transporter l'engin sur une distance de 3000 km, tout en veillant à ce que son ami et lui-même échappent aux guerriers sur leur char volant?
Avant de t'inquiéter de ça, attends que la dame ait accosté et Corfu soit sorti de sa soute, se dit-il. Une chose à la fois.
Le ciel bleu était vierge de toute menace, mais il se sentait terriblement vulnérable tandis que le submersible continuait à fendre les eaux en direction du sud.
Ton ami Proust a-t-il un conseil à nous donner ?
Demanda-t-il à Orfu. Ce dernier s'éclaircit la gorge dans un grondement.
L'âge sait lui aussi honorer et servir. La mort achève tout. Mais avant le trépas, la noble tâche est là que l'on peut accomplir. Pour découvrir un monde, il n'est jamais trop tard. Notre force a décru, mais elle est là, toujours. Si elle ne peut plus remuer, si elle est terre, nous sommes encore tels que nous étions hier, et nos cœurs de héros, trempés comme le fer, sont résolus, maris par le temps et le sort, à lutter, à quêter et à ne point faillir.
Ce n'est pas du Proust. « Et inutile de prétendre le contraire, » déclara Manmut.
La masse qu'il avait aperçue au sud se faisait plus nette.
« Non, » répondit Orfu. « C'est Ulysse, de Tennyson. »«
Qui est Ulysse ?»«
Odysseus. »«
Qui est Odysseus ?»
suivit un silence choqué. Finalement, Orfu reprit.
« Ah, mon ami !» Voilà une lacune dans ton éducation, au demeurant excellente, qu'il convient de combler au plus vite. Peut-être aurons-nous besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur...
Attends, fit Manmuth. Une minute plus tard, il répéta. Attends.
Qu'y a-t-il ?
La Terre. J'aperçois la Terre.
Autre chose ? Des détails ?
Je corrige la résolution.
Orphue attendit patiemment, puis...
Alors ?
Les visages de pierre,
dit Manmuth.
Je vois les visages de pierre, surtout en haut de la falaise, d'ici jusqu'à l'horizon est.
Seulement à l'est ? Rien n'a signalé côté ouest ?
Non. L'enfilade de visages s'interrompt à peu près là où nous allons accoster. Je vois du mouvement dans ce coin. Des centaines de gens, ou de créatures, se déplaçant sur la plage et en haut de la falaise.
Nous ferions mieux de plonger,
conseilla Orphue.
Attendons la tombée de la nuit pour accoster. Trouvons une grotte sous-marine ou quelque chose comme ça, une cachette où tu pourras dissimuler la dame et où...
Trop tard,
dit Manmuth.
Les systèmes de bord ne disposent que de 40 minutes d'autonomie à peine. Et puis ces gens, ces créatures, ont interrompu leurs activités. Ils descendent sur la plage par centaines. Ils nous ont vus.